Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez où on s'était arrêté, dans le personnage de Samuel. La dernière fois, ça remonte à 3 semaines, hein, donc vous avez dû oublier un petit peu. Vous vous souvenez que le peuple avait demandé un roi, et on s'était posé la question, comment ça se fait que Samuel, le prophète officiel du pays, qui dirigeait, qui jugeait le pays, c'était le dernier juge, hein, en fait. Comment ça se fait qu'il va dire au peuple, vous voulez un roi, ça veut dire que vous rejetez Dieu. Alors qu'on a des textes dans le Deutéronome qui disent, quand vous aurez un roi, bah, bah, bah. Et on s'était posé la question, vous vous souvenez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il raconte Samuel? Charles nous avait fait un texte super actualisé de... tout ce que vous risquez quand vous voulez faire votre volonté, quand vous voulez un roi à votre manière, un roi comme les autres nations. Parce que le problème, il était là. C'est que le peuple voulait effectivement un roi. D'une part, il le voulait tout de suite. Et d'autre part, il le voulait comme les autres nations. Dieu avait prévu qu'il y ait un roi, mais pas tout de suite. On va le voir après avec David. Et pas comme celui des autres nations. Donc, comme quoi, hein, ça se joue sur pas grand-chose. Que moi, la première fois que j'ai repris les textes, j'ai dit, mais je ne comprends pas. C'était prévu qu'ils aient un roi. On en parle déjà dans les livres qui précèdent. Comment ça se fait? Judas, hein, quand la prophétie sur Judas, des rois sortiront de toi. Qu'est-ce qui se passe? Et puis Samuel en colère qui dit, ouais, vous rejetez Dieu. En fait, voilà, ils voulaient en faire à leur tête, tout de suite, maintenant, et surtout avoir un roi comme les autres nations, et ça c'était le problème, parce que les rois des autres nations, donc on l'avait lu, hein, ils vont prendre vos jeunes gens pour des courtisans, des soldats, vos jeunes filles comme esclaves, etc. Et ils vont vous lever des impôts, etc. Donc, malgré ça, ils ont répondu, on veut un roi, maintenant. Donc Samuel, eh bien, il représente aussi un peu le Seigneur quand on exige quelque chose, qu'on prie et qu'on demande. Et... Alors, il y a le bon côté de la persévérance, mais autant il faut être persévérant, autant il faut toujours ajouter, et Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, garde bien la porte fermée. Parce qu'il y a des moments où on peut être vraiment persévérant, demander quelque chose avec insistance, et Dieu finit par dire, ah, tu veux vraiment ça, comme les autres. Eh bien, tu l'auras. Et en général, ça ne se passe pas très, très bien. Donc, ce que je conseille toujours aux jeunes, hein, c'est ouais, demander à Dieu, persévérer, mais ajouter quand même toujours au bout, si vraiment tu ne veux pas, garde la porte fermée, même si je suis fâchée. Parce que vraiment, si Dieu ferme une porte en général, c'est pour nous protéger, ce n'est pas pour nous embêter, quelles que soient les impressions qu'on a. Ceci étant... Samuel a donné l'onction royale à Saül en privé, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il lui a annoncé un certain nombre d'événements. Et parmi les événements qu'il lui a annoncés, il ne demandait rien, le pauvre Saül. Il était en train de chercher des ânes. Il n'était pas du tout dans le coup. Il ne connaissait même pas Samuel, d'ailleurs, et ça, c'est un peu inquiétant. Parce que quand même, tout le monde connaissait Samuel dans le pays. Vous savez, le téléphone arabe, ça marchait très bien en ce temps-là. Je ne sais pas si c'était le téléphone cananéen. Mais il marchait très, très bien. Et donc, comment ça se fait que Samuel était un homme d'État qui était là depuis des dizaines d'années? Comment ça se fait qu'il ne le connaissait pas? Ça m'a semblé un petit peu louche sur qui était Saül. Et on s'aperçoit que Dieu va disposer tout pour qu'il rencontre Samuel en cherchant ses ânes, et qu'il y a une succession d'événements qui marquent Saül de sorte qu'il soit complètement différent. Donc vous vous souvenez ce qui se passe? Il lui dit, tu vas rencontrer des prophètes et tu vas prophétiser avec eux. Je ne sais pas, à la place de Saül, j'aurais été vraiment inquiète. Il devait l'être, j'imagine. Et effectivement, il rencontre une troupe de prophètes et il se met à prophétiser avec eux. Et tout ce que Samuel a prédit se réalise. Saül devait être vraiment choqué parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Il lui dit même, t'inquiète pas pour tes ânes, ils sont retrouvés, etc. Tout ce qu'il lui dit se réalise. C'était déjà un peu inquiétant. Les gens, quand ils le voient prophétiser, Ils disent, Saül est-il parmi les prophètes? Il y en a même qui vont jusqu'à dire, mais qui est le père de ces prophètes, c'est-à-dire le responsable de ces prophètes? Ça allait de dire, pour autoriser quelqu'un comme Saül à prophétiser. Donc vous voyez, c'est pas très net, hein, qui était Saül à cette époque-là? On connaissait pas Samuel, les gens quand ils le voient prophétiser, ouh, est-ce que lui serait parmi les prophètes? Et c'est resté un proverbe en Israël, d'après ce que dit la Bible, pour dire, étrange, Saül serait-il parmi les prophètes? Vous voyez, il y a quand même des choses bizarres. Mais bon, Saül se trouve engagé là-dedans, dans ce processus. Et une chose importante, le Saint-Esprit descend sur lui et la Bible dit que son cœur a été changé. Ah ! Là, il se passe quelque chose, il va être un homme différent. Et vous savez, c'est un personnage étrange, Saül, hein, parce qu'on le met toujours en opposition avec David à cause de ce qui s'est passé par la suite. Mais il se trouve qu'au début, ce pauvre Saül, il a suivi ce que Dieu avait disposé pour lui, et il est resté, aussi longtemps qu'il est resté dans l'humilité, il a bien démarré. Et ça nous fait réfléchir, quand Dieu dispose des événements, et que la personne rentre dedans avec humilité, ça se passe bien. Alors évidemment, nous on connaît la fin de l'histoire. Alors, mais si on regarde objectivement, ça a bien démarré. Dieu a disposé les événements, tout ce qui a été annoncé s'est produit. Il est rentré dedans sans faire d'histoire. Moi, j'aurais peut-être dit, oh non, pas de blague, j'ai pas du tout envie d'être roi. Mais il s'est laissé faire. Il a obéi à Samuel et tout s'est bien passé. Première période. Ça nous fait réfléchir aussi que même quand Dieu fait tout pour qu'on réussisse, on peut quand même mal finir. Ça va dépendre de notre cœur et de notre attitude. Et là, je pense à tous les jeunes, parce que vous démarrez. Et je pense que tous ceux qui sont ici, Dieu a fait tout pour que vous réussissiez votre vie. Après, tout va dépendre de vos réactions à vous. Il y a un temps où ça dépend de vos parents. Il y a un temps où ça dépend de tout un tas d'événements qui sont autour de vous, de circonstances. Hein. Si vous naissez pendant la guerre, par exemple, c'est un peu moche. Hein. Voilà, mais quand tout se passe bien, que tout a bien été disposé pour vous, ça ne veut pas dire que tout va être rose et que vous allez tout réussir. Après, ça va dépendre de vous. Et vous ne pourrez pas accuser ni les parents, ni la société. Il y a un moment où ça dépend de nous. Et ça, on va le voir dans la vie de Saül. Il y a un moment où les choses vont dépendre de lui. Jusqu'à présent, il marche bien, il suit, il obéit, il est très humble et il avance avec le Seigneur. À Mitzpah, Samuel fait rassembler le peuple. Et on va désigner Samuel officiellement, Saül officiellement, en tirant au sort, finalement une sorte de tirage au sort. On ne sait pas très bien comment se passait ce genre de cérémonie avec l'Oumim et le Tourim. On ne sait pas très bien, on sait que ça existait, mais apparemment, dans tous les dictionnaires bibliques que j'ai regardés, on ne sait pas exactement comment ça se passait. Toujours est-il qu'on cherche par tribu, c'est la tribu de Benjamin qui est désignée, on cherche par famille, et c'est la famille de Saül qui va être désignée, et après, c'est Saül qui est désigné comme le prochain roi. Et le sort donc le désigne, mais alors là, on a un problème. On voudrait bien mettre la main dessus, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'il fait, Saül, quoi? C'est pas possible. Et on est obligé de reconsulter Dieu pour savoir où est Saül. Et Dieu dit, il est caché auprès des bagages. Ah, c'est embêtant, avec Dieu, on ne peut pas se cacher. Hein. C'est un petit peu humoristique, je trouve, ce passage. Vous imaginez le futur roi qui était, paraît-il, le plus grand d'Israël, de taille. Pour se cacher, c'est déjà pas évident. Il ne pouvait pas se cacher dans la foule, puisque sa tête ressortait apparemment. Donc, il a trouvé le truc, il s'est caché auprès des bagages. Les gens avaient dû laisser, c'était une grande fête, un grand rassemblement. Ils avaient dû emmener leurs bêtes, leur nourriture et tout. Ils devaient avoir des tas de choses, mais il s'est planqué là. Et ça aussi, ça nous parle. Quand Dieu nous appelle à quelque chose, on ne pourra pas se cacher. On ne peut pas se cacher avec Dieu. Il n'y a plus de tirage au sort maintenant, ne vous inquiétez pas. Mais Dieu continue à parler. Est-ce qu'il s'est caché par peur ou par timidité? Ou est-ce qu'il ne se sentait pas à la hauteur? En tout cas, il y a un verset que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce verset qui dit, c'est Samuel qui lui dira, quand il commencera à foirer, il lui dira, quand tu étais petit à tes yeux. Quand tu étais petit à tes yeux. Et vraiment, le début de la vie de Saül, c'est ça. Quand tu étais petit à tes yeux. Et Samuel l'a bien cadré. Et je me suis aperçue, je crois que c'est à Florence, je disais hier, plus je lis cette histoire de Samuel, sa vie, etc., plus je m'aperçois qu'il s'est attaché progressivement à ce grand Saül. Ce qui explique que quand il a commencé à foirer, il avait un chagrin. Dieu lui a dit, mais arrête de pleurer, quoi. Va nommer un autre roi. Ah oui, mais non, son cœur était vraiment attaché à Saül. Il l'a trouvé sympa, ce grand gaillard. Il l'a trouvé assez réservé, assez timide. Il lui a trouvé des qualités au début. Et il s'est attaché à cet homme. Quand tu étais petit à tes yeux. Alors là, vous allez me dire, mais attends, Dan Slin n'avait pas prêché sur pourquoi est-ce que le peuple d'Israël n'a pas pu faire la conquête et a tourné 40 ans dans le désert, vous vous souvenez? La réponse était parce qu'ils se considéraient comme des sauterelles. Alors on me dit, alors d'un autre côté, tu nous dis, il faut être petit à nos yeux, et d'un autre côté, il ne faut pas se considérer comme des sauterelles. Ben oui, c'est ça. Et la limite est assez mince, hein, entre je veux rester petit à mes yeux, mais je ne veux pas non plus me prendre pour une sauterelle. Pour un petit insecte, comme ça, voilà. Ouais. C'est pas évident, hein, la vie chrétienne. Je crois que c'était Luc Maroni, hein, qui disait, il y a une tension permanente. Hein, et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Il y a une tension permanente. Les dangers sont des deux côtés. Et c'est vrai que c'était bien qu'il se considère petit à ses yeux. Ça veut dire qu'il comptait pas sur lui. Ça veut dire, Seigneur, j'ai pas les compétences. Seigneur, je me sens pas, tu m'as appelé. Mais voilà, je suis obligée de dépendre de toi, parce que de moi-même, il n'y a pas grand-chose de bon. Hein. Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Ça, c'est bien. Mais d'un autre côté, dire, oh, je ne vaux rien, je suis rien, je ne peux rien, je suis une petite sauterelle, mes ennemis vont me manger tout cru. Non, ça, c'est pas bon. Ouais. Et la différence n'est pas énorme entre les deux attitudes. Mais c'est une attitude de cœur, au fond. Hein. Rester petit, mais pas non plus tomber dans la dépression, je suis rien, je ne vaux rien, parce que la Bible dit qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pas évident d'un côté de dire, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, et de l'autre côté, mais je me rappelle que je suis petit, et c'est lui qui va m'aider. Un équilibre à tenir qui n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, au démarrage, Samuel était content, parce qu'il a senti que c'était un homme qui était petit à ses yeux. Alors, mais il n'y a pas de souci pour ce brave Saül. Dieu donne ce qu'il ordonne, hein, on le dit souvent. Et il va retrouver Saül. Et je ne sais pas comment il l'a chopé derrière les bagages, mais il dit, écoute, tu ne te sens pas à la hauteur, mais bon, il faut venir maintenant parce que tu vas être nommé comme roi. Quand on ne se sent pas à la hauteur, je crois qu'on peut s'appuyer davantage sur Dieu. Et je dis toujours, hein, je ne sais pas si c'est avec Elsa que je disais ça l'autre jour, t'as peur, ben c'est très bien. Faut mieux, aussi longtemps qu'on n'est pas sûr de soi, c'est bien, on peut compter sur le Seigneur. Et on peut être sûr de l'assurance qu'il nous donne, lui. Ah, c'est un peu compliqué, mais c'est ça. Seigneur, je compte sur toi. J'y vais avec la force que tu me donnes. J'y vais pas parce que je suis le plus beau, le plus fort et le plus intelligent. Mais j'y vais parce que tu me donnes la force, tu me donnes le courage, tu me donnes ce qu'il faut. Et c'est ça la bonne attitude. Et Saül a bien démarré. Alors, ça fait enrager hein, quand on connaît la suite de sa vie. Il a super bien démarré. Samuel va donc présenter le roi. Et il va insister, il est malin, hein. Il insiste sur le fait qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. Vous voyez, sa taille, c'est le plus grand. Le peuple est ravi. Et là, Samuel, alors on va reprendre ce passage pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. On courut tirer Saül de là et il se tint debout au milieu du peuple. Donc, voyez l'effet produit, une tête de plus. Il les dépassait tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que le Seigneur a choisi, il n'y en a pas comme lui dans tout le peuple. » Tout le peuple acclama en disant, « Vive le roi !» Donc il a eu l'onction royale en privé, maintenant il est choisi comme roi par l'ensemble du peuple, après un tirage au sort. Et Samuel, homme sage entre tous, il ne s'arrête pas là. Il les a prévenus, « Vous avez rejeté la royauté de Dieu sur vous, vous voulez un roi comme les autres nations, vous savez ce que ça implique ?» Mais il est gentil quand même. Il est gentil. Parce qu'il aurait pu dire, débrouillez-vous avec votre roi maintenant. Hein? vous avez rejeté la royauté de Dieu sur vous, vous m'avez rejeté quelque part moi en tant que juge et prophète, débrouillez-vous. Et Dieu n'agit pas comme ça, et les hommes de Dieu n'agissent pas comme ça. Il va aller jusqu'au bout de ce que Dieu lui avait demandé en s'occupant de ce peuple. Et j'admire son attitude, parce que peut-être que moi j'aurais envie de dire, vous le voulez, ben maintenant, déguster, hein. Non, il va continuer à l'accompagner, il va même s'attacher à ce roi, et il va, verset 25, Samuel dit au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans le livre qu'il déposa devant le Seigneur. Il faut se rendre compte qu'on est à plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Ils étaient évolués, hein. C'était un peuple extraordinaire, ce peuple d'Israël. Il va écrire le droit de la royauté. Pourquoi ? Mais parce que justement, il ne veut pas que ça aille dans le mauvais sens, comme ce qu'il leur a annoncé, hein, quand il leur a dit, vous verrez, il prendra vos biens, il prendra vos filles, il prendra, etc. Il a dit, la royauté, selon la Bible, ce n'est pas la même. J'avais jamais remarqué ce petit verset, puis c'est en relisant, il dit au peuple le droit et il va l'écrire. Alors, écrire le droit. Parce que la monarchie établie en Israël ne ressemblait pas à celle des autres nations. Elle était assortie de droits et de devoirs destinés à éviter le style oppressif qu'on a lu la dernière fois. À cette époque, 1000 ans avant Jésus-Christ, quand vous pensez comment s'est comporté Louis XIV. Non mais c'est vrai, c'est intéressant. Le texte va être écrit et disposé devant Dieu pour éviter qu'il exerce un pouvoir despotique et pour empêcher le roi de priver le peuple de liberté. Et il va même jusqu'à dire, il doit avoir une copie de cette loi, alors je ne sais plus où est-ce qu'on trouve ça, je crois que c'est dans le Deutéronome. Le roi doit avoir une copie de cette loi et il doit y obéir et la promouvoir. Donc on n'est plus du tout dans les royaumes étrangers, là les royaumes qui entouraient Israël. Le roi lui aussi doit avoir une copie de cette loi, il doit lui obéir et la promouvoir. Pour éviter le despotisme, pour éviter que le peuple perde sa liberté. Alors ça, c'est dans le Deutéronome, on le voit. Il doit avoir une copie et il doit s'y tenir. C'est ce qui était prévu dans le Deutéronome. Ouh, on est plus près de la monarchie constitutionnelle que de Louis XIV. Hein. Et pourtant, il se croyait de droit divin. Voilà ce qu'on fait avec la religion. Donc il va écrire le droit de la royauté. C'est important parce que c'était à la base dans le Deutéronome. On prend conscience du droit souvent quand il y a des problèmes. Et on le dit souvent, l'ennemi fonctionne aussi en fonction des droits que nous lui donnons. Et je parlais hier avec une dame qui me disait, mais j'ai l'impression que je laisse des droits à l'ennemi dans ma vie. Et attention, ce qu'on appelle les portes ouvertes. Quels droits on donne à l'ennemi dans nos vies ? L'ennemi fonctionne aussi avec des droits. Pas que le roi. Et j'y pensais à propos de Je suis Charlie. Hein. Quand on a écrit sur son Facebook, par exemple, moi j'en ai pas, je sais pas trop comment ça marche, mais je suis vraiment de la vieille école, je suis désolée. Mais quand on écrit Je suis Charlie, on s'associe à quelque chose qui donne des droits. Le droit de blasphémer. Le droit de blasphémer. Ça veut dire qu'on ouvre une porte à l'autorisation de blasphème dans notre vie. Qu'on soit pour la liberté d'expression, oui, les protestants ont toujours défendu farouchement la liberté d'expression, et il faut continuer, il faut se battre pour la garder, ou la récupérer dans certains cas. Mais la liberté de blasphémer, c'est un droit qui n'est pas divin. Je vous laisse dire d'où il vient. Et c'est une porte ouverte. Et écrire ça, s'y associer, c'est vraiment ouvrir une porte à l'ennemi dans nos vies. Le droit de blasphémer, avec tout ce que ça comporte. Attention, on peut ouvrir des droits, consciemment ou inconsciemment. Et on parlait aussi du droit écrit, hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que oh, les statuts, le droit, le règlement intérieur, les règlements d'église, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui s'occupe de tout ça. Ça ne sert à rien. C'est au Saint-Esprit d'agir. Mais si on réfléchit bien, alors moi, je vous avouerai que quand je sais que Arnaud et André travaillent sur tout le droit, etc., les statuts de l'Église, etc., pour qu'ils soient vraiment le plus juste possible et tout, bon, c'est pas mon truc, quoi. Mais ni le peuple d'Israël, ni l'Église primitive n'ont fonctionné à l'aveuglette. Et voyez que là, même Samuel, notre grand Samuel, il établit un droit écrit. Il le dit oralement et en plus, il va l'écrire et le présenter au Seigneur. Donc, il y a quelque chose de sérieux dans le droit. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, hein, si quelqu'un voulait vous piquer votre maison ou votre voiture ou quelque chose, à quoi est-ce que vous avez recours ? Au droit. Il n'a pas le droit de venir me voler ma voiture, il n'a pas le droit de me prendre ma maison. Et j'ai mes papiers chez le notaire, je suis propriétaire, etc. Voilà. Et le droit, c'est quand il y a un problème, qu'on en a bien, bien besoin. Écrire, c'est marquer les limites, c'est marquer des repères, c'est établir le droit et le non-droit. Et si vous lisez les lettres de Paul, vous voyez que l'Église primitive avait aussi un droit très clair. Les anciens n'avaient pas tous les droits. Les diacres n'avaient pas tous les droits. Les évêques n'avaient pas tous les droits. Tout était limité. Il y avait des repères, il y avait des limites bien établies pour que chacun fasse ce qu'il a à faire pour éviter les abus et protéger les gens. Donc le droit, c'est important. Même si ce n'est pas drôle. Moi, je ne me serais pas vue faire des études de droit, franchement, pas du tout. Mais il y a des gens qui aiment. Mais c'est important, c'est important. Hein. Vous avez vu le droit dit et le droit écrit. Ça fait partie des choses importantes d'une communauté. Alors après, évidemment, les chrétiens ont toujours peur du légalisme. Ouh, ça c'est la grande bête noire. Le légalisme, c'est dangereux. Oui, bien sûr. Parce que Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. Hein. Et il faut garder cet esprit qui vivifie. Mais ça ne veut pas dire qu'on a tous les droits n'importe quand. Hein. C'est toujours encore une fois cet équilibre, hein, on y revient toujours. C'est pas évident. Alors, il y a une petite restriction intéressante. Samuel renvoya le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla chez lui à Gibéa. Bon, il devait être content de rentrer chez lui, le pauvre. Et là, il y a un verset qui m'a choqué il y a des années. Des hommes de valeur, dont Dieu avait touché le cœur, l'accompagnèrent. Des hommes de valeur, dont Dieu avait touché le cœur. La formule m'avait intéressée. Des hommes de valeur, dont Dieu avait touché le cœur. Et je me suis dit, c'est important d'avoir les deux. Il y a des tas de gens de valeur. Je parlais récemment avec quelqu'un jeune qui me disait, mais on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir des valeurs. Vous avez déjà réfléchi à ça? Il y a des athées qui ont des valeurs absolument superbes. Et parfois, nous-mêmes, on se sent repris, on dit, oh, il est mieux que moi dans ce domaine. Oh là là, pour quelqu'un de non-croyant, moi, je n'aurais pas fait si bien. Alors pourquoi ? Alors les jeunes y réfléchissent logiquement. Pourquoi être chrétien dans ce cas-là ? Alors il y a deux choses. La première chose, c'est, cette personne me disait, on peut très bien avoir des valeurs sans être chrétien. Alors j'ai dit oui, mais tu dis ça parce que tu vis en Europe. Essaie d'avoir les mêmes valeurs au Pakistan, en Arabie Saoudite, en Chine, en Afghanistan. Est-ce que ça sera aussi facile de mettre en pratique ces valeurs ? Je ne les cite pas, mais je vous laisse deviner. Est-ce que ça sera aussi agréable et aussi facile dans des pays avec une culture religieuse totalement différente ? Ou une culture athée aussi, dans certains cas, hein ? Est-ce que ça sera ? Parce que c'est facile de dire, j'ai pas besoin de Jésus, j'ai les bonnes valeurs. Oui, bien sûr, en Europe. Pourquoi ? Parce que ça fait 2000 ans qu'on a bâti nos lois, qu'on le veuille ou non, on les respecte pas nécessairement, hein, mais on les a bâties sur un système judéo-chrétien. Napoléon s'est inspiré de la Bible quand il a revu. Donc c'est facile de dire, j'ai les valeurs, j'ai pas besoin de Christ. Oui, en Europe, c'est faisable. Mais allez habiter au Pakistan. Vous verrez, c'est si facile. Aller en Inde, par exemple. Tiens, en ce moment, moi, je suis pas mal les nouvelles. Il y a eu pas mal de viols en série en Inde et les femmes, même les hommes, se révoltent et essaient. Ouh, bah, c'est pas simple. Hein. Et je lisais le témoignage sur la BBC d'un gars qui a fait partie d'un viol en série, etc. Il va être condamné à mort, je crois. Et même avant sa condamnation à mort, il dit, mais moi, j'ai rien à me reprocher. Ce n'était qu'une mendiante. Bon, voyons. Les valeurs. Une mendiante, ça n'a pas de valeur. Ah, on n'est pas dans un pays de culture judéo-chrétienne. Alors évidemment, il y a des Indiens cultivés qui se battent. Voilà. Mais vous voyez, est-ce que c'est si facile? Bien sûr, on peut parler comme ça en France. On peut parler comme ça en Angleterre ou aux États-Unis parce que toute la société est bâtie sur des valeurs judéo-chrétiennes. Mais allez voir dans des pays où il n'y a aucune valeur judéo-chrétienne. Alors là, je peux vivre avec mes valeurs sans croire en Dieu, sans... Ah ! Essayez voir, on en reparlera. Hein? Et ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Et souvent, ce que je m'aperçois, c'est que les gens athées, même s'ils sont plutôt anticléricaux que athées d'ailleurs, ils reprennent simplement les valeurs chrétiennes. Donc... Enfin, donc c'est important de prendre conscience de ça. Donc, on a affaire à des hommes de valeur, hein, mais dont Dieu a touché le cœur. Il faut avoir les deux. Parce que les valeurs, un jour ou l'autre, elles vont casser. On n'a pas la force de tenir nos valeurs dans certaines circonstances si on n'a pas Dieu pour nous aider. Hein? On le voit même à l'école. Si le prof s'est trompé, on s'aperçoit qu'il nous a mis 12, en fait, on méritait 8, il a fait une erreur de calcul. Il faut un peu de courage pour garder ses valeurs et dire « Madame, vous vous êtes trompée, j'avais 8. » J'ai été en face d'un problème semblable à l'école et c'était pas évident. Hein. J'ai gardé mes valeurs. La prof était sympa, heureusement. En général, quand ils voient l'honnêteté, les profs, ils craquent. Mais c'est pas évident de lever la main et de dire « Je garde mes valeurs. » J'étais contente quand même qu'elle n'en tienne pas compte. Mais ce n'est pas évident. Hein? Et il faut qu'on soit de valeur, mais que Dieu ait touché notre cœur pour pouvoir tenir ces valeurs. On peut les avoir dans notre tête, mais pour les mettre en pratique, on a besoin que Dieu touche nos cœurs. Hein? Ça, je crois. Donc, j'aime beaucoup ce verset. Et que tous les leaders du monde soient entourés d'hommes de valeur dont Dieu a touché le cœur. Et c'est important qu'il y ait les deux, d'ailleurs, parce qu'on pourrait dire, bah, l'essentiel, c'est que Dieu ait touché le cœur. Le reste suivra. Oui, normalement, mais il faut les deux. Il faut avoir les valeurs de la parole de Dieu et le cœur touché par l'Esprit du Seigneur. Et là, on peut tenir debout. Et alors, il y a un petit verset très intéressant. Il y eut toutefois des hommes sans morale. Alors, suivant les traductions, vous avez fils de Bélial. C'est ça que ça veut dire, des hommes sans foi ni loi, quoi. Qui disaient, quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ? Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi qu'il n'était pas très bien vu, notre Saül, au départ, visiblement. Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ? Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. La tradition devait sans doute être que, quand on nommait un roi dans les pays cananéens, on lui apportait des cadeaux. Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ? Et ils le méprisèrent. Hein ? Important, leur réaction. Et on peut se dire, comment va réagir Saül ? Et je crois que c'est là aussi que le cœur de Samuel a été touché, parce que apparemment c'est Samuel hein, qui a écrit cette partie-là. Il a été touché par la réaction de Saül. Il a bien démarré, Saül. Regardez sa réaction. Mais il garda le silence. Et combien de fois ça vous arrive au travail, dans les relations, à différents moments, que les gens vous méprisent ? Soit parce que vous êtes chrétien, soit parce que vous ne leur revenez pas. Peut-être vous leur rappelez quelqu'un qu'ils n'ont pas aimé du tout. Ou vous avez une personnalité qui les irrite. On a le droit, hein, qu'est-ce que vous voulez. Tout le monde ne peut pas nous aimer. Même dans les familles, ça arrive. On a du mal à digérer l'un ou l'autre. Et ce n'est pas évident. Et quel est le conseil de la parole de Dieu ? Mais il garda le silence. Il y a des gens qui l'ont méprisé. Quoi, c'est lui ? Bon. Gardez le silence et se confier en Dieu. Et vous allez voir ce qui va se passer après. J'anticipe un tout petit peu pour ceux qui ne seraient peut-être pas là la semaine prochaine. Quand il va remporter la bataille, quand il va gagner la victoire, il y a les gens qui viennent voir Saül et qui lui disent « Saül, vas-y maintenant, tous ceux-là qui t'ont méprisé, à mort !» Et comment il va réagir ? Encore une fois, voyez pourquoi Samuel s'est attaché à cet homme ? Il dit non, c'est un jour de victoire. On ne va pas transformer ça en un jour de massacre. C'est un jour de victoire. Dieu nous a sauvés. On ne va pas. On va pas, tu sais, on les laisse tomber. Impressionnant, Saül, hein ? On ne le voyait pas comme ça, on voyait juste ses fautes. Hein ? Mais il a bien, bien démarré. Dans tous les cas, il a bien démarré. Alors, on va passer au début, en tout cas, de l'histoire de cette fameuse bagarre, cette fameuse guerre. Donc, il est roi, mais vous allez voir, il va rentrer chez lui. Cette fois, il ne va pas se cacher dans les bagages, mais il va rentrer chez lui. Et il était quoi ? Il était agriculteur, éleveur, agriculteur. Et chapitre 11, Naash l'Ammonite dressa son camp contre Yabesh de Galaad. Tous les hommes de Yabesh dirent à Naash, « Conclue une alliance pour nous et nous te serons soumis. » Mais Naash l'Ammonite leur répondit, vous allez voir, hein, c'est pas Daesh, mais c'en est pas loin, « Je la conclurai pour vous à cette condition. Je vous crèverai à tous l'œil droit et j'infligerai ainsi un déshonneur à tout Israël. » Les anciens de Yabesh lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, le temps que nous envoyons des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne peut nous sauver, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et rapportèrent ces paroles au peuple. Tout le peuple se mit à sangloter. Wow. On est loin des batailles avec Josué, là. Configuration complètement classique. Alors, qui étaient les Ammonites ? Descendants de Lot, ils habitaient à l'est du Jourdain. Ils avaient déjà essayé d'envahir plusieurs fois Israël. On les voit dans Juges 3 et Juges 11. C'est pour vous donner un petit peu le... Voilà. Configuration classique. Attaque de l'ennemi, il installe son camp. Et à propos, vous savez ce que veut dire Naash ? Ça veut dire serpent. L'histoire est très symbolique aussi, même si elle est réelle, mais elle est symbolique aussi. Première réaction du peuple, là, on a du mal à avaler ça. Première réaction, conclue une alliance pour nous et nous te serons soumis. Waouh, ça veut dire que l'ennemi attaque, on n'a même pas commencé à discuter avec lui, on propose une alliance et la soumission. Ben, ils ne sont pas combatifs. Hein. On n'est plus au temps de Moïse et Josué, où il disait, allez, prenez le territoire que je vous ai réservé, récupérez ces terres, etc. Et puis, allez, éliminez tous ces gens qui sont des adorateurs d'idoles, qui sacrifient à leurs enfants, imaginez. Non, ils sont complètement dans un autre monde. Conclue une alliance pour nous et nous te serons soumis. Pas combatif. Attention au compromis avec l'ennemi. On ne fait pas de compromis avec le serpent. Même les éleveurs de serpents, hein, combien de fois ils se font mordre et piquer, j'ai lu ça souvent. On ne fait pas d'alliance avec l'ennemi. On ne fait pas de compromis. On n'accepte pas comme ça froidement d'être ses esclaves. Attention, justement, toutes les addictions. Attention, tous les compromis nous rendent esclaves. Mais Naash, il sent qu'il peut aller plus loin. Et il sent qu'il peut exiger beaucoup plus qu'une soumission ou un simple impôt. L'ennemi ne s'arrête pas. S'il le peut, il va chercher à humilier, déshonorer, non seulement la personne qu'il a en face de lui, mais toute sa communauté. Et il va essayer d'aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il se sent fort. Non, on lui a déjà dit, écoute, alliance, soumission. Et qu'est-ce que fait l'ennemi dans ce cas-là ? Dans toute la Bible, on a la même réaction. Il va en demander plus. Vous savez comment ça marche, hein ? Dès qu'on commence à désobéir à Dieu, on dit un mensonge pour couvrir le combo. Le premier mensonge, on en fait un deuxième, puis un troisième, et puis un jour, on se retrouve dans un océan de catastrophe. L'ennemi ne s'arrête pas. S'il le peut, il ira toujours plus loin. Oui ? C'était la phrase suivante. Merci, Arnaud. Voilà, non, c'est vrai. Il sent qu'il peut aller plus loin et il va imposer une condition qui est grave, crever l'œil droit. Je trouve ça déjà dégoûtant. Mais l'idée était de rendre inapte au combat. Parce qu'en fait, les gens tenaient en général leur bouclier de la main gauche et pour y voir, ils protégeaient cette partie du visage et avec l'œil droit, ils regardaient ce qui se passait. Et à partir du moment où l'œil droit était crevé, ils étaient obligés de se découvrir. Ce fameux bouclier de la foi peut-être. Eh bien, ils ne pouvaient plus l'avoir devant eux. Sinon, ils ne voyaient rien. Donc, ils étaient inaptes au combat. Ça veut dire qu'on avait un peuple soumis et qui ne pouvait pas se défendre. Suffisamment, ils y voyaient suffisamment pour être des bons esclaves, pour faire le boulot, pour être soumis, mais pas suffisamment pour se battre. Et je me suis posé la question. Moi, je n'aime pas trop me battre. Je suis obligée parfois, mais ce n'est pas évident. dans la vie, il faut se battre quand même, de la bonne manière. Et je me suis posé la question, est-ce que nous, chrétiens, au XXIe siècle, en France, on n'est pas devenus un petit peu comme ça ? Suffisamment chrétiens pour faire tout ce qu'on a à faire, hein, mais pas suffisamment pour être dynamique, pour être vraiment des combattants, pour garder notre bouclier de la foi devant nous, pour nous protéger aussi. C'est une question. Est-ce que quelquefois la société, les habitudes, l'ennemi nous a pas rendu inaptes au combat ? Et quelque part, il nous inflige du déshonneur, de l'humiliation, des douleurs. Et du coup, il infligeait même l'humiliation à tout Israël. Parce qu'il se disait, ils ne sont pas foutus de se défendre les uns les autres. Tout ce qu'ils savent, c'est se bagarrer. Et il n'avait pas tort, Nahash. Quelques dizaines d'années avant, vous vous souvenez ce qui s'était passé au même endroit ? Il y avait la concubine d'un certain homme, c'était au temps des juges, qui avait été brutalisée, tuée. Et ils étaient tellement en colère qu'ils avaient envoyé les morceaux de cette femme, on va voir quelque chose de similaire après, dans toutes les tribus pour dire maintenant, on va se venger de ceux qui ont fait ça. Et ils ont foncé, je crois que c'est la tribu de Benjamin d'ailleurs, celle de Saül, et ils les ont vraiment massacrés. Donc Nahash, qui connaissait certainement cette belle histoire, il se sentait très fort. Ils ne sont pas foutus de s'entraider, ils ne sont pas foutus, ils se battent entre eux. Est-ce que parfois l'ennemi ne peut pas dire ça aussi des chrétiens ? Ils se battent entre eux. Ce n'est pas la peine, ils se débrouillent très bien tout seuls pour se casser. Ce n'est pas la peine que je me dérange. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Et il y a tout ça derrière. Infliger le déshonneur, il était sûr de lui. Ils peuvent toujours demander de l'aide aux autres tribus. On les a vus dans le passé. Et la réponse des anciens, donne-nous une trêve de 7 jours pour demander du secours. Et là, à mon plus grand étonnement, il a accepté. Non mais, enfin, vous voyez, imaginez, il y a un peuple qui nous attaque, puis on dit, bon attendez, on ne commence pas la guerre avant 7 jours, on va appeler tous les autres pays d'Europe avec nous. Ça le gênerait quand même, hein. Ça le gênerait. Lui, il s'en fiche. Parce qu'il sait, il se dit, ils ne sont pas foutus de combattre. Ils ne sont pas foutus de s'entendre. On n'arrivera à rien. Ils étaient devenus vraiment mou. Et pourtant, il y a des moments où le secours des frères et sœurs est indispensable. Et ils ont eu la bonne réaction, les anciens, pour une fois. Hein. Je leur râlais dessus la dernière fois. Ils ont eu la bonne réaction. On va appeler les autres. Et il y a des moments dans notre vie où on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est humiliant de le dire, mais c'est vrai. Ça nous est arrivé à nous aussi. On a eu besoin des autres, on a eu besoin des frères et sœurs de l'Église. Sinon, on ne s'en sortait pas. Et c'est très bon pour notre humilité. C'est très bon pour notre cohésion, pour notre unité. C'est formidable. Ce n'est pas très plaisant. Ceci étant, ce n'est pas très plaisant. Mais bon, c'est très bon pour nous. Et le TQP, c'est ça aussi, le torrent qui purifie. Hein. C'est avoir besoin des autres pour s'en sortir. Quand on sent qu'on se bat tout seul et on n'y arrive pas, on sent qu'on voudrait bien changer, on voudrait bien sortir d'une addiction quelconque, et puis ben, on n'y arrive pas. C'est là qu'on a besoin des autres. Et c'est là que aussi se fait l'unité et que le Seigneur se réjouit dans notre unité. Mais le peuple n'est pas trop combatif. Vous avez vu quand il lui annonce la nouvelle, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Ouais, on va venir vous aider !» Vous avez vu ce qu'ils font ? Ils sanglotent. Alors c'est bien de pleurer avec ceux qui pleurent, la Bible le dit. Mais ça ne suffit pas. Ils vont avoir l'œil crevé, les pauvres. Il faut peut-être se bouger. Ils pleurent. Ils sanglotent. Oh, c'est affreux ce qui vous arrive. Alors ça, c'est gentil, parce que parfois, il y a des gens qui n'ont aucune compassion, ça, c'est moche. Mais ça ne suffit pas quand il reste 7 jours. Et là, on a une image fantastique. Le roi arrive. Pom-pom-pom, on imagine les trompettes, le tapis rouge, les chevaux. Il n'est même pas devant ses bœufs, il est derrière. Derrière ses bœufs. C'est une image forte. Il ne se comporte pas en leader. Même pas de ses bêtes. Il est derrière. Il n'est pas un leader. Il n'est pas leader. Et il est dans sa routine. Il a été nommé roi. Bah, so what ? Il marche derrière ses bœufs. Mais il a quand même été appelé par Dieu. Il a été oint par Dieu. Il a été nommé par le peuple. Et il n'entreprend rien. Et c'est seulement quand il entend parler de cette attaque, vous allez voir, Saül arrivait des champs derrière ses bœufs. Saül dit, qu'a donc le peuple à pleurer ? On lui rapporta les paroles des gens de Yabesh. Le souffle de Dieu s'empara de Saül. Il entendit ces paroles, il se mit dans une grande colère. Et voilà, il va agir. Il a fallu qu'il y ait cet événement pour que ça le secoue. Oh, maintenant, tu es le roi, il faudrait peut-être que tu te bouges. Seulement, il n'aurait pas pu le faire tout seul. Il a fallu que ce soit l'Esprit de Dieu qui vienne l'animer. Et pour se bouger, les sentiments, ça ne suffit pas. L'information qu'on entend, ça ne suffit pas. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne sur nous. Et je m'arrêterai avec ça. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne sur nous. Si on veut bouger, si on veut que les choses changent, si on ne veut pas rester derrière nos bœufs, il faut que l'Esprit de Dieu descende sur nous. Et quand on entend toutes ces choses horribles, les difficultés des chrétiens, les difficultés de notre monde, ben, Seigneur, viens sur moi, parce que sinon je vais rester derrière mes bœufs. Hein? Et c'est dommage, parce que je crois que Dieu nous a appelés à autre chose. Et tant qu'il est resté petit à ses yeux, vous allez voir, Saül va être super. Et on va s'identifier à lui, jusqu'au moment où il foire. Et là, le Saint-Esprit descend sur lui, il va entreprendre une action. Et prions que le Saint-Esprit descende sur nous.